Vous écoutez, on lit pour vous.
Mieux protéger nos aînés, un texte de Catherine Blondin, paru le 2 avril 2025, dans Le Droit. Catherine Blondin signe une lettre de réflexion sur la fin de vie de nos aînés au Québec, en lien avec le décès de sa grand-mère de 95 ans, Pierrette Lemieux Blondin, à Gatineau. Pouvons-nous vraiment protéger nos aînés face à un système de santé qui semble s'effondrer? Depuis quelques années, et plus encore depuis la pandémie, je suis profondément préoccupée par la place qu'occupe la fin de vie de nos aînés dans notre société. L'expérience récente de ma grand-mère a ravivé des inquiétudes qui me tourmentent. Je ne peux m'empêcher de penser à mes parents, mes oncles et mes tantes, qui pourraient bientôt se trouver confrontés à une situation similaire. Notre société est-elle encore en mesure de garantir la dignité de nos aînés dans leurs derniers moments, lorsque le système de santé semble avoir atteint ses limites? Ma grand-mère est décédée le 28 juillet 2024 dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, en Outaouais, emportée par une plaie de pression infectée, conséquence de sa perte d'autonomie. Elle avait 95 ans et, comme bien des aînés, elle avait de nombreux problèmes de santé. Avant son décès, elle a passé un an dans une résidence de la région de Gatineau. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la personne courageuse qui a signalé les négligences dont elle a été témoin. Son signalement a permis de donner une réalité concrète à cette histoire. Son histoire complète, vous pourrez la lire dans le rapport d'investigation du coroner. Patrick Duquette signe aussi une chronique dans Le Droit à ce sujet. Un rapport qui révèle des négligences et des protocoles de soins non respectés. Nous ressentons tous les mêmes maux profonds, ceux d'un système défaillant, probablement partagé à travers le pays. L'impuissance, la colère, le désespoir et la culpabilité. Les familles, confrontées à des murs infranchissables, se heurtent à un système malade, tandis que certains de nos aînés, abandonnés, finissent leur vie dans la solitude. La situation actuelle concernant la fin de vie de nos aînés soulève des questions importantes. Il est essentiel de s'interroger sur les conditions dans lesquelles ils vivent et meurent. Des améliorations sont nécessaires pour assurer leur dignité et leur confort. Le système de soins présente des lacunes structurelles caractérisées par un manque de ressources généralisées. Cette pénurie a un impact direct sur la qualité des soins, la prévention et l'équipement disponible. Le manque de personnel est une problématique persistante. Il est impératif de mettre en œuvre des solutions concrètes. Dans le cas de ma grand-mère, les soins prescrits et l'équipement nécessaire n'ont pas été fournis malgré une ordonnance. Le système de soins présente des dysfonctionnements, notamment des blocages administratifs qui peuvent entraver la prestation des soins. Il est légitime de s'interroger sur les délais observés dans le traitement des dossiers, comme l'évaluation de l'autonomie, SMAF, demandée en juin-juillet 2023, réalisée en janvier 2024, mais restée sur une tablette jusqu'au début avril 2024. L'évaluation lui attribuait un profil 14. Les profils 10 à 14 correspondant aux 5 profils dont l'atteinte de l'autonomie est la plus sévère. Des problèmes de coordination entre les services sont également constatés. L'enquête journalistique du 4 juin 2024 du journal Le Droit a mis en lumière des cas de maltraitance dans 2 résidences de l'Outaouais. Les réactions des parties impliquées soulignent la complexité de la situation. l'accompagnement mis en place depuis janvier 2024 soulève des interrogations quant à son efficacité, notamment dans le cas de ma grand-mère. Il est pertinent d'évaluer l'impact de cet accompagnement et la capacité du système à apporter des solutions adéquates. Le système de soins est confronté à des défis structurels, tels que des politiques potentiellement incohérentes et des problèmes de fond qui peuvent s'aggraver avec le temps. La question de la prévention se pose également. Afin d'éviter une surcharge du système, la solution budgétaire annoncée par le CISO en mars 2025 soulève donc des préoccupations. La réduction de 90 millions de dollars, impliquant la suppression de plus de 700 postes en Outaouais, pose la question de l'équilibre entre les impératifs budgétaires et la qualité des soins. L'histoire de ma grand-mère n'est pas isolée. C'est le symptôme d'une crise profonde du système où des défauts de fonctionnement et de gestion, tant au niveau opérationnel qu'administratif, ont malheureusement pris racine. Il est inacceptable, intolérable que des vies se terminent ainsi. Ce rapport est inquiétant et nous devons agir. Il révèle concrètement des failles du système. Nous ne pouvons plus accepter que nos aînés soient traités comme des numéros, abandonnés dans la souffrance. Nous ne pouvons plus tolérer que les responsables se défaussent. Il est temps d'exiger des solutions concrètes dans nos systèmes de santé, des changements profonds et une responsabilisation sans faille. Il est temps de redonner dignité et douceur à nos aînés, que ce rapport soit un point de départ pour une transformation réelle, que les responsables répondent de leurs actes, que les coupables soient sanctionnés, que les victimes et les familles soient entendues, et que la mémoire de Pierrette Lemieux soit honorée par un engagement indéfectible à bâtir un système où la vie humaine est sacrée. Il ne faut pas oublier, nous sommes les prochains. C'était « Mieux protéger nos aînés », un texte de Catherine Blondin, paru le 2 avril 2025 dans Le Droit.
Comment augmenter les revenus des artistes? Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 28 mars 2025 dans Le Devoir. Il faut bien parler d'un coup de théâtre, signalant un changement soudain dans l'action dramatique. En l'occurrence, la surprise éclatante est sortie du nouveau budget dévoilé le mardi 25 mars 2025 par le gouvernement caquiste. 317,9 millions de dollars supplémentaires au cours des 5 prochaines années pour le Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ. Les programmes de l'organisme venant en aide aux artistes et aux compagnies artistiques seront haussés à 200 millions dès cette année, soit le minimum réclamé par le milieu regroupé en front commun depuis des mois. Cet acteur majeur a eu gain de cause. Le rebondissement en chanteur a suscité une sorte d'ovation des différents milieux, sauf celui des musées laissés en plan. Reste maintenant à comprendre si et comment cette manne pourra ruisseler jusqu'aux artistes qui en ont bien besoin. Selon certains calculs, les revenus moyens des activités artistiques oscillent autour de 17 500 $ par année au Québec, soit 3 fois moins que la moyenne de la main-d'œuvre nationale. Le montant est encore plus faible pour les interprètes en danse, pauvres d'entre les pauvres. Le surplus d'argent au CALQ va aider les organismes et les artistes à assurer une meilleure prévisibilité et à mieux porter leur mission, dit Paryse Mongrain, directrice générale du Regroupement québécois de la danse, RQD, représentant toutes les forces vives du chausson. Le RQD est membre du Front commun pour les arts, comme 16 autres organisations culturelles qui se sont mobilisées pour la hausse des budgets du CALQ. On était sur une pente descendante et le nouveau financement devrait nous ramener à un niveau décent. Le système de bourse devrait être sécurisé. Ce sont de très bonnes nouvelles, ajoute Mme Mongrain. Prochaine étape, le filet social. Cela noté, les revenus artistiques des créateurs n'augmenteront pas nécessairement avec le calque bonifié. Les artistes peuvent être plus payés pour chacun de leurs contrats, mais en signer moins pour moins de représentations et de tournées, et donc récolter d'aussi maigres cachets au total. Il y a de moins en moins d'emplois. Le travail est morcelé et, au bout du compte, ça peut être tout aussi difficile de tirer un revenu annuel décent, poursuit la directrice du RQD. Le rehaussement des conditions de travail est une conséquence du bon financement, mais ce n'est pas la seule mesure qui doit être mise en place en ce moment pour soutenir les artistes. Comme bien d'autres observateurs engagés de son milieu, Paris Mongrain souhaite élargir le débat, aller au-delà des subventions, pour finalement s'assurer que le filet social auquel a droit toute la main-d'œuvre du Québec protège aussi les artistes, les artisans et les travailleurs de la culture. Il faut revoir l'ensemble des mesures, dont celles qui nous échappent en raison du statut d'emploi. Ces mesures sont accessibles aux travailleurs salariés, mais beaucoup moins aux travailleurs autonomes, dit-elle. Deux gestionnaires culturels, Simon Brault et David Lavoie, signaient dans Le Devoir, au lendemain du budget, une lettre ouverte pour réclamer eux aussi le renforcement du filet social pour les artistes. Ils citaient l'assurance-emploi, les congés pour maladie et les caisses de retraite, mais aussi l'augmentation des emplois disponibles, l'accroissement des droits d'auteur ou de suite, ainsi que l'extension du cadre des conventions collectives. Paris Mongrain cite l'exemple de certains obstacles bloquants l'accès au régime de santé et de sécurité du travail en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Elle parle du programme de retrait préventif avec compensation en cas de grossesse, inaccessible aux danseuses. Elle évoque les mesures de transition professionnelle pour les danseurs obligés de changer de carrière et de continuer à contribuer à la société. Omar et art, même combat. Certains de ces chantiers vont impliquer le fédéral. L'économiste Jean-Martin Hossan cite l'exemple des travailleurs saisonniers des pêcheries dans l'est du pays qui ont accès aux prestations d'assurance-emploi pendant l'hiver. Je ne vois pas pourquoi les arts et la culture sont différents et n'ont pas droit à cette mesure, dit-il. Il y en a un qui nous nourrit de poissons et un autre qui nous nourrit le cerveau. Il faut normaliser le statut d'artiste et lui donner accès au même filet de sécurité, aux mêmes garanties, aux mêmes assurances que les autres. Tonia Contoyani, présidente de l'Union des artistes, rappelle qu'un sondage interne a montré que 95% de ses membres souhaitaient que le syndicat explore la possibilité de mettre en place une version de l'assurance-emploi pour les artistes. On fouille ça depuis 2017. Nous avons exploré plusieurs scénarios au fil des années, surtout avec le ministre Pablo Rodriguez à Patrimoine Canada. Nous avons une forme de filet social pour les artistes qui signent des contrats avec des syndiqués. Une assurance collective, une contribution au régime enregistré d'épargne retraite. Mais on n'a toujours pas d'assurance emploi et on pourrait y avoir droit comme d'autres travailleurs temporaires au pays, dit-elle. Le passage de la théorie à la pratique semble compliqué. Comment, par exemple, prendre en compte des heures dites invisibles qu'un artiste consacre à sa pratique? Si je signe un contrat de théâtre pour 100 heures de répétition et 35 représentations, comment calculer tout le temps passé à apprendre le texte? C'est très difficile à évaluer et donc ça n'a pas débouché encore. Mais beaucoup de gens essayent de trouver la voie de passage pour y arriver. M. Hossan va jusqu'à défendre l'idée d'un revenu minimum, et pas seulement pour les artistes. Il note que le pays y est presque et qu'il pourrait y arriver en combinant des mesures existantes. il y a une panoplie de mesures au Québec, des crédits d'impôt aux assurances, dit l'économiste. En faisant un grand ménage, on pourrait définir un programme de revenu minimum garanti, et je suis aussi pour fixer un revenu maximum. Il faut revenir à des taux d'imposition qui limitent l'accumulation de richesses extrêmes. Lui aussi applaudit à la hausse de 7,5% des budgets en culture et en communication, contre 3% en santé et 2,2% en éducation. La culture doit être notre priorité parce que, à mon sens, c'est la raison pour laquelle on fait tout le reste, dit-il. Alors que, dans notre société, traîne cette image d'un luxe agréable à se payer quand tout le reste est couvert. Non. La culture n'est pas le superflu. C'est l'essentiel. Ce n'est surtout pas ce qui doit subir des compressions quand les temps sont plus difficiles. Des chiffres et des lettres. Combien y a-t-il d'artistes au pays? La réponse varie selon les catégories considérées. En misant sur les amateurs, on arrive à des millions de personnes. En se concentrant sur les professionnels, les totaux peuvent bouger du simple au quadruple. Une liste restreinte, comprenant 10 catégories, allant des arts de la scène aux arts visuels, en passant par l'artisanat, l'écriture ou la direction artistique, comptabilise plus de 200 000 artistes professionnels au Canada, dont 43 000 au Québec, selon les données du recensement canadien de 2021. Ces comptes, purement artistes, pourrait-on dire, correspondent à 1% de la population active canadienne et à 0,9% de la population active québécoise. Autrement dit, selon ce calcul, une personne québécoise sur 110 se définit comme une artiste professionnelle. Une liste plus généreuse, étendue à une cinquantaine de groupes professionnels, totalise plus de 173 000 travailleurs québécois dans la catégorie des arts, de la culture et du patrimoine, soit environ 4,6% de la main-d'œuvre active. Cette perspective élargie additionne aux danseurs, musiciens, autrices ou comédiens, les designers graphiques et les imprimeurs, les traductrices, les architectes, les bibliothécaires et même les professionnels des relations publiques ou du marketing du secteur des arts et de la culture. Il semble tout aussi compliqué de démêler combien gagnent les artistes. Une étude réalisée pour le compte du Conseil des arts de Montréal avec les données du recensement de 2021 place le revenu moyen provenant de leur art des artistes montréalais à 17 400 $. En additionnant les autres sources de revenus, y compris les aides financières de la pandémie, le total monte à 35 600 $, soit 21% de moins que la moyenne de la main-d'œuvre montréalaise, 44 800 $. Une étude de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, publiée en février 2024, établissait que le revenu moyen des 173 000 artistes de la cinquantaine de catégories analysées était de 47 674 $ en 2020, par rapport à 51 450 $ pour l'ensemble de la population. Les écarts varient beaucoup entre les directeurs des secteurs, 75 500 $, et les danseurs, 16 200 $. C'était « Comment augmenter les revenus des artistes », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 28 mars 2025 dans Le Devoir.
Comment enseigner la politique américaine avec le retour de Trump ? Un texte de Mathieu Carbas, paru le 22 mars 2025 dans Le Devoir. Tout a commencé par un choc, celui de l'élection du 5 novembre 2024, qui a donné une nouvelle fois les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump. Pour Charles-Philippe David, qui enseigne la politique américaine à l'UQAM, la pilule a été difficile à avaler. il lui a fallu plusieurs semaines pour s'en remettre. Le choc de l'après-élection a été presque trop fort pour moi. J'ai vécu un moment un peu dépressif, explique au Devoir celui qui est également le fondateur de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Au choc et au déni ont ensuite succédé l'effroi et la douleur de découvrir que ce pays, les États-Unis, que M. David étudie depuis plus de 40 ans, n'était plus que l'ombre de lui-même. À partir du 20 janvier 2025, le jour de la seconde intronisation de Donald Trump, je me suis dit, désormais, on ne peut plus nier la réalité. Elle est là, en pleine face, et elle lui fait mal. Cette douleur est aussi celle qu'il constate parfois chez ses étudiants. Il y en a qui sortent de la salle de cours en pleurant. Quand tu as 19 ou 20 ans, puis que tu entends tout ce qui se dit, entre les changements climatiques, la guerre en Ukraine, Poutine, Gaza, la Chine, Trump qui veut annexer le Canada, etc. Il y en a qui pensent que c'est la fin du monde. C'est beaucoup pour eux, avance le professeur. Selon lui, l'ambiance générale parmi les universitaires qui s'intéressent aux États-Unis n'est pas des plus légères. Tout le monde est très négatif, pessimiste. Disons que parmi les collègues, il n'y a pas grand monde qui sourit dans les couloirs. Pour les professeurs de politique américaine et de relations internationales, les événements qui se trament au sud de la frontière sont en essence une douche froide perpétuelle, et une remise en question permanente s'impose quant à une actualité et à un pays qu'ils ne reconnaissent plus. J'ai l'impression de perdre mon pays. Pour continuer à enseigner, Charles-Philippe David a décidé d'être totalement franc avec ses étudiants à qui il expose ses états d'âme. J'ai décidé que j'allais être authentique, que j'allais être vrai. Je ne cache pas à mes étudiants que je suis absolument consterné par tout ce que je vois. Je leur dis, si je vous dis que tout va bien aller, je vous mentirai. Mais si je vous dis que c'est la fin du monde, je pense aussi que c'est exagéré, explique le professeur. Honnêtement, je sens au fond que ce que j'exprime, c'est la même chose qu'ils ressentent, peut-être pas avec la même profondeur historique. Mais il y a le même sentiment de désarroi. Je leur dis, j'ai l'impression de perdre mon pays. C'est l'expression qui résume le mieux ma perception des choses. Et puis M. David s'appuie aussi sur deux autres clés pour continuer sa mission. Prendre un recul historique pour expliquer que ce que nous voyons aujourd'hui des Américains est très loin de ce qu'il a étudié et vécu lors de ses séjours au sud de la frontière. Surtout, il invite ses étudiants à relativiser les choses en insistant sur le fait que ce n'est pas la majorité des Américains qui sont d'accord avec ce qui se trame à Washington ou à Mar-a-Lago. Pour Frédéric Gagnon, qui dirige l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM, où il donne un cours sur les enjeux politiques contemporains aux États-Unis à une quarantaine d'étudiants, il existe deux approches pour aborder l'actualité politique aux États-Unis. Il y a des profs qui adoptent une approche ouvertement critique. Ils vont déconstruire les discours du président Trump pour expliquer ce qu'il est en train de faire. Et il y a des professeurs, j'en fais davantage partie, qui ont un regard critique quand même sur ce qui se passe, qui remettent en question certaines déclarations, mais qui présentent la vision de Trump, explique-t-il au Devoir. Pour lui, il est essentiel de présenter l'autre côté de la médaille et essayer d'aider les étudiants à comprendre d'où vient ce courant politique. Si cette vision-là tombait du ciel, si elle n'avait pas de racines et s'il n'y avait pas d'appétit pour ça en sol américain, Trump n'aurait pas été élu en 2016 et il n'aurait pas été élu en 2024, avance-t-il. Le professeur constate d'ailleurs que dans son groupe, il y a des étudiants qui ont peur et qui sont très critiques à l'endroit du président américain. Mais il y en a aussi qui ont une certaine curiosité, pour ne pas dire une certaine admiration envers Donald Trump. Il y a dans la façon qu'a Trump de faire de la politique quelque chose qui peut intéresser des gens qui se tenaient loin de la politique, explique-t-il. Des mots nouveaux. Parmi les adaptations nécessaires pour ceux qui enseignent la politique américaine, il y a aussi ces mots nouveaux qu'il convient désormais d'utiliser pour qualifier le régime en place chez nos voisins. Charles-Philippe David n'hésite pas à parler ouvertement de « dérive autoritaire » et d'un « danger pour les États-Unis et pour le monde ». Il refuse toutefois d'utiliser le mot « fascisme », car on n'en est pas encore là, selon lui. Jonathan Paquin, qui dirige l'École supérieure d'études internationales à l'Université Laval, abonde dans le même sens, mais préfère parler d'un gouvernement proto-fasciste. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas du fascisme, mais que la table est mise pour qu'à la longue, si les institutions, notamment le Congrès, ne jouent pas leur rôle, ce système se dirige vers ce que nous appelons le fascisme, affirme-t-il. S'il admet faire toujours très attention aux termes qu'il emploie, M. Paquin tient à appeler un chat, refusant de ménager ses étudiants. Les étudiants en sciences politiques ou en relations internationales, il faut être cash avec eux, il faut leur présenter les choses telles qu'elles sont, souligne le professeur, qui avoue avoir été affecté sur le plan personnel par l'élection de Donald Trump. « J'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la tristesse », témoigne-t-il. Surtout, ne pas battre en retraite. Dans ce contexte anxiogène, Jonathan Paquin tient cependant à rester positif et voit même dans la période actuelle une occasion unique de repenser ce que nous sommes, au Québec et au Canada. Pas question pour lui de baisser les bras, et l'ère Trump 2.0 doit justement être l'occasion d'étudier d'encore plus près les États-Unis. Il ne faut surtout pas battre en retraite. La période actuelle me donne envie de travailler davantage sur les relations canado-américaines, de tisser des liens plus forts avec certains collègues américains. Ça me donne envie de poursuivre les recherches sur les États-Unis et d'encourager les étudiants à toujours mieux comprendre ce pays-là. Le professeur souhaite donc s'investir et défendre haut et fort les valeurs qui sont les nôtres plutôt que de se taire et de craindre des représailles. Pour lui, il ne faut surtout pas renoncer car c'est maintenant qu'il faut parler. À l'instar de son confrère Charles-Philippe David, M. Paquin veut être plus présent dans l'espace public, notamment dans les médias. Ça fait partie de ma responsabilité et c'est maintenant que ça doit se faire. C'était « Comment enseigner la politique américaine avec le retour de Trump ?» Un texte de Mathieu Carbas paru le 22 mars 2025 dans Le Devoir.